crois qu'on va pouvoir commencer cette seconde session. Donc, on va parler tout d'abord Julián Gallego, qui vient de l'Université de Buenos Aires, qui travaille sur le monde rural, dans la Grèce ancienne et sur la pensée politique aussi dans la Grèce ancienne et plus particulièrement à Athènes, et qui a publié un livre sur la démocratie athénienne au temps du tragique. Et je lui laisse tout de suite la parole.
Merci. D'abord, je vais exprimer ma gratitude aux organisateurs par l'invitation. Je suis très heureux de participer à ces colloques. À l'égard de ma connaissance précaire de la langue française, c'est votre indulgence que je vais solliciter avant de commencer. Dans cette relecture de l'œuvre de Jean-Pierre Vernant, il s'agit de réfléchir à des figures singulières de l'agent, l'héros tragique et les citoyens démocratiques. Il s'agit de rechercher la constitution d'un agent responsable dans le registre tragique par rapport au domaine de l'action politique, en assumant que c'est dans l'intersection de ces deux champs où on peut penser les problèmes du processus subjectif de la décision dans la démocratie athénienne. Dans ses Vosges de la volonté dans la tragédie grecque, Bernard a montré que les Grecs ne disposaient pas d'une notion précise pour désigner ce que nous comprenons sous la catégorie de volonté. Sur l'action, il paraît plus facile de s'étendre d'après le vocabulaire grec, comme Bernard l'a montré dans la catégorie de l'agent et de l'action en Grèce ancienne à partir des études de Mille Benveniste. Mais la difficulté réapparaît ici en ce qui concerne l'agent, puisqu'il subsiste, dit Bernard, une prééminence de l'acte et de l'activité sur l'agent, une intégration de l'agent dans l'action, une absence de l'agir. Dans ce sens, tout au long du 5e siècle, la tragédie marque un moment concret en ce qui concerne les approches de la volonté chez l'homme grec ancien. Et avec cela, elle permet d'accéder aussi à un état déterminé de l'élaboration des catégories de l'action et de l'agent. Cette préoccupation tragique se situe sous quelques conditions précises, entre lesquelles le fonctionnement de la propre cité démocratique semble décisif. Pour Vernant, le modèle tragique de l'action humaine se caractérise par la présence simultanée au sein de la décision, dans soi-même et dans au-delà du vent, par une constante tension entre deux pôles opposés. Dans ces Vosges de la volonté, ce modèle est défini selon des circonstances spécifiques. Je cite « Avènement de la responsabilité subjective, distinction de l'acte accompli de plein gré et de l'acte commis malgré soi, prise en compte des intentions personnelles de l'agent, autant d'innovations que les tragiques n'ont pas ignorées et qui, à travers les progrès du droit, ont affecté de façon profonde la conception grecque de l'agent, modifié les rapports de l'individu à ses actes. Or, cette dimension subjective que la tragédie met en relief, s'épuise-t-elle dans les seules ébauches de l'homme individuel comme centre de décision? Comme Bernard l'indique dans les moments historiques de la tragédie, le caractère de l'agent tragique exprimé dans la séparation du héros par rapport au cœur n'implique pas des processus achevés d'individualisation. En conséquence, cette condition du héros tragique ouvre la possibilité de penser un agent qui n'est pas réduit à la vie intérieure d'un personnage singulier. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue est que le vrai personnage que la tragédie met en scène est la cité. Bernard l'a dit sans embâche, dans Tension et ambiguïté dans la tragédie grecque, à propos de cette contre-thèbe de Scylle, où Éthiocle représente le modèle psychologique de l'homo politicus grec du 5e siècle, en mettant en relief les valeurs, les modes de pensée et les attitudes que la cité prescrit. Donc, si d'un côté l'héros tragique comporte le rapport d'un individu à ses décisions et ses actes, d'un autre côté, l'héros est aussi lié aux conditions politiques de la cité, la communauté des citoyens qui compose le public du théâtre. En commentant l'idée de donner longue du théâtre comme métaphore spatiale de la cité, Pierre Vidal-Naquet dans les miroirs brisés, a parlé de distanciation, presque au sens vrestien du mot. Il dit, pour souligner que le théâtre réalise une représentation distanciée de la police. Si ce sens brestien est accepté, il suppose que les spectateurs ne sont pas directement impliqués avec les personnages et l'histoire racontée, mais qu'ils produisent une pensée à partir de ce qu'on représente. Cela nous conduit à la fonction de la pensée, ou d'anoïa, dans la tragédie. Pour Aristote, dans la poétique, le nœud central dans ce point réside dans le problème du dilemme. Je cite, « Le caractère, ethos, est ce que montre le choix, proaïdesis. Les parties que le cas étant doutées, on adopte des préférences ou évite. » Bernard l'indique clairement à partir de l'éthique à Nicomaque, où Aristote définit le concept de poétesis par rapport à l'agent en position d'agir. Il s'agit de l'action sous la forme de la décision, engageant le sujet dans l'acte. Il s'agit d'une option pratique dans le moment même où il est décidé. À l'égard de tout cela, l'héros tragique se trouve constamment confronté à soi-même et en au-delà de soi-même. Selon nous, dans un terrain abstrait, la tension entre ces deux forces n'est pas différente de celle qui met en mouvement la prise de décision dans la communauté athénienne. Nous sommes précisément face à un champ conflictuel qui, sur le plan tragique, se présente usuellement autour de l'hybris du héros, mais qui, sur le plan politique, montre les divisions existantes dans la cité traversée par la stasis. Ces divisions renvoient à la distance entre la propre configuration politique de la police et ce qui la sollicite pour décider, puisque dans ce parcours, la communauté doit assumer la scission qui la constitue grâce à la stasis que le processus de prise de décision habilite. Dans ce sens, je vais insister aussi avec l'idée de métaphore, mais en proposant l'hypothèse que l'héros tragique opère comme métaphore de la situation du citoyen démocratique. Or, s'il n'existe pas en grec antique un mot correspondant à notre terme volonté, dans quel point alors la volonté est-elle ébauchée dans la tragédie pour laquelle la langue grecque manque de concepts? La délimitation capitale que Bernard propose dans ses broches de la volonté souligne une jonction avec le domaine de la politique. Je cite, par sa participation à une vie politique où les décisions sont prises, au terme d'un débat ouvert, de caractère positif et profond, chaque citoyen commence à prendre conscience de soi comme un agent responsable de la conduite des affaires, plus ou moins maître d'orienter par sa gnome, son jugement, par sa phronesis, son intelligence, le courant sortant des événements. Mais ni l'individu, ni sa vie antérieure n'ont acquis assez de consistance et d'autonomie pour constituer le sujet en centre de décision d'où émaneraient ces actes. Mais s'il ne s'agit pas encore de l'agent constitué autour de l'individu et sa vie antérieure, alors de quelle classe de sujet s'agit-il? L'héros tragique est un sujet qui doit prendre nécessairement une décision dans une tension entre lui-même et des forces supérieures à lui. D'autre part, les citoyens athéniens sont responsables des décisions et des actions politiques qu'ils réalisent en fonction des affaires de la communauté. Ils n'agissent pas ainsi à titre d'agent autonome, mais en sa qualité de membre de la police, de membre d'un corps collectif. Si l'héros tragique opère comme métaphore de cette condition du citoyen démocratique, est-ce que cela serait dû précisément au manque de concept de volonté qui pourrait être ébauché de manière métaphorique? La définition de métaphore dans la poétique d'Aristote pourrait être utile dans ce contexte. Je cite, « La métaphore est le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre, onomatos allotrius. » Aristote dit aussi dans la rhétorique que l'image et l'icône est aussi une métaphore, mais qui manque d'une parole, logos. En plus, dans la poétique, Aristote compare la tragédie à la peinture en ce qui concerne l'ordre que doit articuler son contenu. Le récit est pour l'organisation de la tragédie ce que l'image est pour l'organisation de la peinture. Ainsi, la tragédie est l'imitation d'une action, mimesis praxios. Et en vertu de cela, on réalise l'imitation des agents qui agissent, ton pratonton. Or, si l'image peut être liée à la métaphore, cela découle de l'existence d'une ressemblance implicite entre les éléments dans l'opération qui permet d'appliquer un nom d'un autre, ce qui suppose, dans quelques mesures, une imitation. C'est pourquoi nous pourrions dire que cette application d'un nom d'une chose à une autre chose opérerait comme une pensée moyennant des images dans laquelle il manque l'idée abstraite. Dans la rhétorique, Aristote offre plus de précision en indiquant que dans la philosophie, la métaphore permet de contempler les semblables, to homoion, même dans ceux qui se différencient beaucoup. En définitive, l'aspect fondamental que souligne Aristote consiste à ce que la métaphore opère en donnant un nom à ce qui n'a pas de nom, tanonima o nomas menos. Même si la métaphore suppose le manque d'un terme spécifique, elle n'inhibe pas la pensée sur ce qui apparaît ébauché d'une façon implicite. Au contraire, elle permet, analogiquement, de mettre en circulation une idée sur ce qui n'a pas de concept. Alors, dans quel plan l'héros tragique fonctionnerait-il comme métaphore de la condition du citoyen démocratique? L'héros tragique est métaphore de ce qu'on évoque chez les citoyens athéniens comme volonté de l'agent, mais pour ce que la langue grecque manque de concept. Autrement dit, il y a une analogie entre l'héros tragique et les citoyens démocratiques, du moment que les deux sont agents constitués autour du problème de la décision. Ce serait les semblables entre des agents qui se distinguent beaucoup et qui apparaissent même comme antithèses. En fonction d'approfondir cette perspective, nous allons nous concentrer sur les figures du Pélasgos d'Eschyle et du Panthée d'Euripide. Pourquoi cette élection? À mon avis, les suppléantes comportent une réflexion sur l'avènement d'une subjectivité politique qui serait liée au processus de radicalisation de la démocratie. De sa part, les vacances semblent offrir, à partir de ce qui arrive avec la figure du héros, des ressources symboliques pour représenter l'épuisement de cette subjectivité déployée à Athènes pendant la deuxième moitié du 5e siècle. Dans les suppléantes, Pélasgos représente une sorte de résumé de la condition du citoyen athénien face au problème de la décision politique. La forme dans laquelle Eschyle constitue la situation de choix est très précise. Il s'est présenté quelque chose qui ouvre un dilemme. Pélasgos est celui qui parle. Je vois à l'ombre des rameaux frais coupés, des tranchées fidèles devant les dieux de ma cité. Puis la cause de ces concitoyens étrangers n'est point créée de mots. Que nulle querelle, à l'improviste, par surprise, n'en résulte pour la cité. La cité n'en a pas besoin. Ce qui est ici remarquable est que de quelque chose non souhaité ni connu puisse découler un effet discernable dans la situation. Les hasards de l'inespéré et de l'imprévu et les socles sur lesquels on construit les besoins d'une décision apparaissant comme un attribut des citoyens. Pour moi, dit Pélasgos, je ne saurais te faire de promesses avant d'avoir communiqué les faits à tous les citoyens. Pélasgos s'écarte ici du parcours habituel du héros qui met en scène la figure du tyran. Pélasgos est clairement une métaphore du citoyen démocratique. Dans ce point précis, Eschyle évoque l'état subjectif de la décision, l'angoisse de l'agent. Pélasgos dit, « Mais vous secourir, je ne le puis sans dommage. Et pourtant, il m'est pénible aussi de dédaigner vos prières. Je ne sais que faire. L'angoisse prend mon cœur. Dois-je agir ou ne pas agir? Drasaïté, mais drasaïté. Dois-je tenter le destin? Tichen Hélène. Agir ou ne pas agir? Nous trouvons ici ce que je dirais la formule pure de la choix, du choix. Pardon, la formule pure du choix. Au-delà de l'alternative qu'on prenne, ce qui est important, c'est de décider entre deux chemins exclusifs, agir ou ne pas agir. Le choix ne tombe pas seulement sur tel ou tel autre thème, mais sur la propre existence de celui qui choisit son destin. Le choix suppose presque un méta-choix, parce qu'il implique l'option de choisir ou de ne pas choisir. Ce destin décidé est celui qui octroie un caractère de besoin à l'inespéré et à l'imprévisible, que le hasard génère un effet ou un autre dépend de la décision. Le propre Pélasgos délimite les problèmes. J'ai besoin d'une pensée profonde qui nous sauve, afin que l'affaire, d'abord, ne crée point de mots à notre cité. Pour moi-même, ensuite, se termine au mieux. Cette pensée implique l'analyse concrète d'une situation qui requiert d'une décision efficace. Pélasgos expose en quoi consiste la disjonctive. Ou contre ceci, ou contre cela, soulever une rude guerre. C'est à quoi je suis contraint. Face à l'angoisse et à la peur initiale, Pélagos arrive à la conclusion qu'on doit assumer la circonstance présentée avec le courage de se soutenir dans le propre dilemme, en prenant une décision. Car, comme le dit lui-même, point d'issue, exempte de douleur. Finalement, Pélagos laisse voir que la capacité humaine est relative et l'angoisse subsiste, car il n'existe pas de pleine garantie pour la résolution du dilemme. Le cours incertain des événements sur lesquels il faut décider est la mer, Pélagos, que Pélagos ne contrôle pas. On a proposé que ce type d'image nautique de suppléante surgère un dilemme, car il n'y a pas de concept clair du nouveau qui s'est produit à Argos. Le dilemme, pensé à travers des métaphores, fait partie intrinsèquement du héros tragique, car le dilemme est la condition décisive qui le constitue comme sujet. On a assez insisté que dans le théâtre attique, l'héros mythique reste soumis au questionnement qui met en vigueur le principe démocratique. La particularité des suppléantes réside à montrer les des investitures du pouvoir royal. Pélasgos ne devient pas tyran pour montrer de l'extrême opposé en quoi consiste l'identité citoyenne, mais il dénude sur la scène le caractère métaphorique de sa figure. Montrer l'incertitude d'avant un choix, montrer la façon même de la décision, c'est soumettre à la pensée l'opération que le sujet réalise au cours de l'action pendant laquelle il advient comme agent. Si Pélasgos représente un héros lié aux règles démocratiques d'une cité d'Argos qui opère presque comme image idéalisée d'Athènes, le Panthée de Bacan nous conduit à l'une des images de Thèbes comme l'anti-Athènes, selon la formulation de Thomas Seitling dans son étude Thebes, Theater of Self and Society in Athenian Drama. Alors, à partir de la division de l'agent expliquée par Bernard comme tension entre soi-même et les forces de Dieu, ce qui paraît d'abord convenable de mettre en relief est le dédoublement de Panthée à l'égard de Dionysos et les rôles masculins et féminins. Or, d'après le destin de Panthée, ce dédoublement fonctionnerait-il comme une façon de mettre en scène la nature divisée du sujet tragique face au problème de la décision? Comme on verra, dans les vacantes, ce n'est pas la division du sujet, mais l'impossibilité de s'assumer comme agent, sa disparition, ce qui s'imposerait comme aboutissement. D'abord, Dionysos arrive à Thèbes. Il réclame qu'on lui rende culte et réaffirme sa condition de fils de Zeus. Mais le dieu se présente sur une apparence humaine, qui est assumé par Panthée comme la présence d'un étranger. À cela s'ajoute la figure féminine de Dionysos. Cela résulte fondamental, car le propre Panthée adoptera l'allure féminine. Que cela se produise avec le roi, qui apparaissait comme la crainte, Tarbos, de la cité, est un fait symptomatique pour comprendre le destin de ces héros. Le travestisme de Panthée et l'éruption du ménadisme suppose une féminisation de toute la cité, comme Dionysos promettait en présentant Thèbes comme une femme habillée d'une nébride et d'un tirse. Euripide met ainsi en scène des dissolutions de l'identité citoyenne masculine qui paraissent affecter l'ensemble de la police. Serait-il pertinent d'assumer que celle-ci se connecte tragiquement avec les mutations que la propre cité athénienne souffrait à la fin du 5e siècle dans le processus d'exténuation de sa politique démocratique? Dans cette tragédie, un problème attaché à l'exténuation se symbolise dans l'écartèlement sparagmos du héros. Le Thémakos Panté ne serait pas dans une position différente à celle que Bernard voyait dans l'Isothéos Édipe, dans son double rôle de tyrannos pharmakos. Mais dans les Bacchantes, il s'agit d'un sacrifice rituel, avec Agave comme prêtresse du massacre. Il ne surprend pas alors qu'on utilise des termes liés à sphagé ou égorgement dans sa dimension sacrificielle. Quand Dionysos anticipe la mort de Panté, il invoque son égorgement, catasphagéis, par sa mère. En termes politiques, il faut se rappeler dans ce contexte la connexion entre sphagé et stasis que Nicole Leroux analyse dans sa signification des morts séditieuses liées à la guerre civile. Il s'agit de la guerre civile grecque et la représentation anthropologique du monde à l'envers. Au début, Dionysos promet un combat en commandant l'armée ménadique si la police d'Ébène refuse les Bacchantes avec colère, moyennant les armes. Alors, la sphagée de Panté ne serait-elle pas une mort séditieuse à la lumière de cette promesse? Disons aussi que, en contraste avec la modération, Ewargesia, de l'homme sage que mentionne Dionysos, cette colère orguée qui se pose à l'égard de Thèbes ainsi que de Panté et ses hoplites est l'une des causes que les Grecs admettent comme origine de la stasis. L'ordre de Panté de recruter toute l'armée pour faire la guerre aux femmes est l'énoncé symétrique qui l'oppose à Dionysos. Ainsi, la guerre est énoncée sans cesse. Mais de quelle guerre s'agit-il? Avec Dionysos, on sait, les apparences trompent, parce que l'étranger est en réalité un Thébain, cousin germain de Panté. Lutte fratricide alors, qui n'échange rien au fait que Dionysos soit poursuivi par des femmes barbares, parce que les femmes thébaines, et surtout celles de la famille de Panté, sont les principales menaces. De la vision masculine, cette guerre séditieuse implique des nouveaux morts pour la cité, des femmes qui quittent leur foyer, une nouvelle épidémie, nosos, des couches qui sont outrachées, des femmes comme des ennemis, polémiques, des enfants arrachés, le chivrisme de Bacchan, un affront pour les Grecs. Déchirement fatal, donc, de la prétendue unité de la police. D'autant plus profond que face à la décision édoxée de l'assemblée des bouviers et des vergers de chasser Agave, les femmes répondent, armées avec les tirses, en essayant d'écarteler cette avant-garde masculine qui finit par s'évader. Intersection donc entre stasis et polémos, aiguisée à l'extrême du moment que le combat entre les femmes et les hommes finira avec la mise en fuite désespérée de l'armée masculine. Quand Dionysos induira à l'autre proclamé, Kyrioteros Panté, à cet investir, l'énorme bouleversement, Polyntaraxas, énoncé par le roi, finira par se consommer. Vidal-Naquet a suggéré que, dans les Bacchantes, la stasis passe à l'intérieur du personnage central, le roi Panté, dédoublé entre l'hoplite et les femmes et la femme. Je cite son article Édipe entre deux cités. D'après les mots de Panté, n'ai-je pas la lueur d'Ino ou d'Agave, ma mère? Ce qui est symptomatique ici est le mot allure, stasis. Le sens du terme semble ne pas s'épuiser dans la stabilité de la posture adoptée. En effet, cette boucle qui sort à Panté de sa place existe, constitue sans doute une anticipation de la turbulence future. L'usage de ces deux termes ne paraît pas innocent, et la comparaison avec Kino et Agave non plus. Si la mère du roi est celle qui commence les paragmos, Kino est celle qui complète l'action. Mais cette stasis qui sort de sa place ne s'énonce pas comme partie constituante de la configuration masculine de la cité, mais comme une extériorité convenablement placée sous les formes du féminin. Cela n'empêcherait pas que l'identité citoyenne soit dépassée par ces autres toujours menaçantes, qui pourtant ne sont pas extérieures à ce rangement politique, mais sa propre limite interne. La stasis de Panté, montée sur le boulevard Simon, qu'il avait formulé, devient ainsi la stasis de Thèbes. Panté, qui se vantait d'offrir un sacrifice aux vacantes, finit par souffrir lui-même un sacrifice, dont la valeur des mots séditieuses découle de cette stasis qui est l'idée de représentation unitaire et consensuelle de la politique, réapparaît nonobstant dans le caractère antipolitique du sparagmos, de cette politique qui, en reprenant l'euro dans la voie indoyée, s'oppose à une autre en s'opposant à l'ordre en vigueur. À partir de la débâcle politique de Panté, à partir de sa thiomachie et sa hybris, il n'est pas possible de voir dans tout cela les effets causant du corps citoyen produit la stasis lorsque celle-ci devient déchirante pour la police. Le démembrement de Panté met en relief un autre plan de l'action thoracique. Il établit une interruption du processus signifiant du héros thoracique dans sa fonction d'agent qui opère comme métaphore du citoyen démocratique face au problème de la décision. Il s'agit non pas d'un dénouement qui montre le sujet dans sa scission poignante, en devenant responsable de ses actes, mais d'un dépeçage de l'agent, d'un éclatement de ses parties. Dans ce point, le dédoublement de Panté ne fonctionnerait pas comme une façon de mettre en scène la nature divisée du héros tragique. Panté se voit déplacé du plan où il incarne la loi au plan où il est dominé par Dionysos sans intercéder aucun type de doute ou disjonctive. Jésus Ripide signale Barnard dans ses Vosges de la volonté d'une manière générale la séparation de la vie humaine au sujet du monde de Dieu rend cela un domaine fluctuant et confus où il n'y a pas de place pour l'action responsable. Pour remarquer encore plus les aspects de cet effondrement, la figure de Panté s'est féminisée juste avant de perdre définitivement son pouvoir. Ou bien, nous pourrions déduire, en suivant Anne Hilliard dans son livre « D'Amazonas à Ciudadanas », que les pouvoirs se représentent sous une forme féminisée comme mode d'exposer face au public son propre processus d'épuisement. Dans Dionysiac Poetics, Charles Segal a dit que dans l'imagerie et l'action scénique de Bacchante, il y a un rapport implicite entre corps du roi et corps politique. De sa part, dans The Tragedy of Political Theory, Peter Ueben a soutenu que le démembrement d'un corps politique, le déchirement violent de tout en partie, évoque des images de guerre civile, folie et mort, des identités confondues ou perdues. Alors, à l'égard de Panté, il s'agit non seulement d'une tragédie de l'exclusion, mais de la disparition du propre agent. Il ne s'agit plus de la tension d'un dénouement, mais de l'impossibilité future de choisir à nouveau. L'écartèlement de Panté symboliserait ainsi la rupture sans retour de cette figure subjective. Pour conclure, si comme mot de penser les effets de l'événement de la démocratie, Pelasgos officier comme métaphore du citoyen démocratique, dans la tension disjonctive de prendre des décisions, dans l'épuisement de la démocratie radicale, Panté n'opérerait plus comme métaphore de la scission de l'agent, mais il symboliserait l'exténuation de cette subjectivité. Si on accepte qu'il n'y a plus de division subjective, si on accepte qu'il n'y a plus de corps politique, donc on pourrait dire qu'il n'y a non plus de sujet agent. Comme dit le messager de Bacchante, les corps si disséminés. Il n'est pas facile de trouver. Merci beaucoup.